action pour le logement abordable et durable. À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2025, Action Logement donne la parole aux élus locaux.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de nouveau sur le plateau d'Action Logement au Salon des maires et des collectivités locales 2025. Vous le savez, le thème de ce salon, c'est le meilleur en commun. C'est ce qu'on vous propose et ce qu'on vous promet sur ce plateau. Comme chaque année, vous le savez, Action Logement est présent sur le salon avec les élus, les partenaires, les parties prenantes et des filiales du groupe pour échanger sur les enjeux qui font votre quotidien. Alors dans ce podcast, priorité au terrain, à la parole des élus et aux innovations évidemment. Une manière de partager avec vous notre mission d'utilité sociale. On va partir dans le Var, un peu de soleil. Avec vous, Vincent Amier, vous êtes le directeur général des services de Bormes-les-Mimosas. Rien que le nom déjà fait rêver normalement. Et à vos côtés sur cette table ronde, Marc Esponda, le directeur de Solia Var. Et on va parler ensemble déjà de Bormes-les-Mimosas, d'enjeux et puis de solutions un peu innovantes et potentiellement duplicables, parce que c'est ça l'idée que vous avez mise en place sur un projet. On commence avec vous, Vincent Miette, pour peut-être nous raconter la ville de Bormes. Hein, en tant que directeur général des services, vous la connaissez, l'élu ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais racontez-nous un peu ce territoire.
Déjà, je vais commencer par vous saluer, Frédéric, et puis remercier Monsieur le maire François Arizi de m'avoir laissé prendre sa place sur ce plateau. Bormes-les-Mimosas, écoutez, c'est un des métiers les plus difficiles de France d'être directeur général de cette commune. Petite commune, 8400 habitants au 1er janvier, mais qui est une commune inscrite dans la strate des communes de 40 à 80 000 habitants, de par sa fréquentation touristique et l'ensemble de ses installations. En pointe, on considère qu'on a plus de 50 000 habitants sur le territoire pendant la saison estivale. Donc territoire ultra attractif, mérité, c'est un des plus beaux territoires de France. 92% d'espace naturel et agricole, 20 km de côte sauvage. Je m'arrête puisque on parlera plus d'innovation au niveau de l'habitat, mais c'est un territoire vraiment privilégié qui bénéficie de son attractivité, mais qui aussi doit la gérer. Et on va pouvoir en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure.
C'est ça qui crée aussi un peu effectivement les tensions. Comment est-ce qu'on explique comme ça, si on reste dans l'histoire, que certaines communes, est-ce que c'est lié à l'histoire, est-ce que c'est lié à des spécificités et une telle puissance, une telle marque, une ville aussi connue, qui vous le rappeliez, n'est pas si grande que ça? C'est quoi, c'est le patrimoine, c'est ce qui s'y est passé? Comment ça s'explique?
Alors toutes les personnes qui sont allées ne posent pas cette question, mais le patrimoine, oui, le paysage, la mer, les îles en face, oui, l'attractivité, elle est évidente. On répond, on coche à peu près toutes les cases de ce que beaucoup de gens veulent visiter ou même veulent s'installer. Donc, l'attractivité, elle est incontestable de par tous ces éléments-là. Un bassin d'emploi qui est proche avec Toulon et hier, qui reste tout à fait dynamique. Donc oui, une vraie attractivité territoriale, incontestablement.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que qui dit attractivité dit aussi tension, c'est-à-dire que l'attractivité, elle a son revers. C'est évidemment la tension qui peut se créer sur le logement, sur les questions parfois de mobilité. Il y a évidemment certainement des questions en lien avec les résidences secondaires, avec l'emploi des saisonniers, on va en parler. Quels sont les principaux enjeux pour vous, dans le cadre de vos fonctions, sur ces questions au cœur de la commune, comment est-ce qu'on repense ces sujets de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, comme c'est souvent le cas, de la ville sur la ville, pour répondre aux nouveaux enjeux?
Ça se répond à travers notamment tous les documents d'urbanisme, essayer de trouver de la place pour tout le monde, que ce soit pour les logements sociaux, à proprement parler, qu'ils soient locatifs ou en accession. Donc essayer de trouver les bons montages financiers et les bons montages en termes de droits de l'urbanisme, mais aussi laisser une place pour l'attractivité économique et le BTP, qui est, on va dire, une force assez importante dans le département, et continuer à construire des logements aussi pour préserver et développer l'attractivité touristique, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les hôtels aussi doivent monter en gamme et les autres résidences doivent également monter en gamme pour attirer une clientèle peut-être huppée d'Europe et de France et du monde entier.
Alors pour illustrer, on a un cas d'école, hein, et vous allez nous raconter le début de l'histoire, puis on va voir comment on trouve une solution avec l'idée que parfois il faut peut-être faire différemment de ce qu'on faisait auparavant. Je crois que la mairie disposait de deux immeubles, c'est ça, vacants dans le centre historique, voulait peut-être les vendre. Et c'est là que l'histoire commence.
Absolument. On est à la fin du Covid, en 2021. Nous disposons de 3 immeubles, 2 dans le centre ancien, parce que Bormes-les-Mimosas dispose d'un centre perché, un village historique, tout à fait carte postale, vraiment magnifique. 2 immeubles dans ce centre-là et une autre maison un petit peu en périphérie. La municipalité souhaitait vendre ses fonciers pour se faire un petit peu de trésorerie, sortir aussi des difficultés de gestion, puisque les collectivités, j'ai pas honte de le dire, ne sont pas des bons gestionnaires de fonciers locatifs. Et là, nous avions un certain nombre de beaux historiques qui n'étaient absolument pas rentables, un foncier qui était en mauvais état, sur lequel des gros investissements étaient nécessaires. Donc le choix de la municipalité, historiquement, était de le vendre. Sur ce, j'ai proposé à monsieur le maire de me laisser quelques mois pour étudier éventuellement d'autres possibilités. C'est une idée. Je pressentais l'idée des logements pour saisonniers. Et pour ce faire, de par un réseau varois, je connaissais bien Solia et Marc Esponda, son directeur, je me suis rapproché de lui pour lui demander si on avait la possibilité de faire une petite étude de faisabilité très contextualisée sur ces 3 immeubles, voir si on pouvait trouver une rentabilité à les transformer en logements pour actifs et logements pour saisonniers.
Et c'est là que Marc Esponda, vous entrez dans l'histoire. Alors peut-être rappeler en quelques mots votre activité en tant que directeur de Soliavar et puis le lien que vous aviez peut-être déjà avec Action Logement notamment.
Oui, alors Soliavar, c'est son acronyme, hein, c'est Solidaire pour l'Habitat. Ce sont à peu près 150 associations en France dont l'objectif premier, c'est quand même le maintien ou l'accès au logement des populations modestes et très modestes. Ça, de manière générale, et on est entre autres accompagnateur Rénov, c'est un des sujets peut-être qui a été abordé avec Action Logement ou ailleurs dans le salon. Et on a une spécificité, en tout cas que je porte moi dans le Var, c'est qu'on a une vraie question sur le logement des saisonniers, puisque le Var, derrière Paris, c'est le premier département touristique de France. Donc l'idée de se pencher sur cette question, c'est d'arriver quand même à maintenir, voire améliorer le développement économique. Hein, Vincent Amier l'a rappelé tout à l'heure. C'est non seulement de se trouver de la main-d'œuvre, mais de la fidéliser, et également de pouvoir upgrader un peu les services qu'on propose aux touristes. Donc, on avait déjà travaillé sur la commune de Bandol avec Action Logement, dont je connaissais certains des dirigeants, hein, sur une mobilisation d'un parc reconverti, qui est du parc social avec Unicil, et dans lequel on a pu mobiliser des logements pour 25 logements saisonniers. Mais on était dans un registre de logement social, avec pas mal de dérogations, vu que c'était du parc d'Unicil. Et là, on s'est dit, sur ce parc communal, parce que beaucoup de communes ont un peu dans leur domaine privé, des logements, des anciens, du bâti qui peut être converti en logement. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Quel est le besoin déjà? Donc on a fait une étude préalable qui a duré 2-3 mois avec Bormes, en se disant, c'est quoi le besoin? Donc on a été voir les entreprises, on a regardé les prix des loyers, on a regardé comment certains se débrouillaient pour pouvoir loger leurs saisonniers. Et en fait, c'était que des solutions très très ponctuelles. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose à jouer sur ce potentiel de 25 logements. La deuxième chose, c'est que Vincent l'a rappelé tout à l'heure, on était sur un parc extrêmement dégradé. Alors il y avait quand même un peu des logements qui étaient occupés. Donc pour les logements occupés, on a fait un diagnostic social pour trouver des solutions de sortie de ces ménages, surtout dans des immeubles qui parfois étaient un peu obsolètes, vieillissants, etc. Et puis on a fait une étude de faisabilité architecturale. Et c'est là que réintervient avec ce logement. On a travaillé aussi à imaginer un plan de financement. Et donc c'est pour ça moi j'ai interpellé Action Logement, parce que je les connaissais depuis Unicil, pour voir comment ils pouvaient concourir au financement de la réhabilitation. Et la deuxième chose, c'est qu'on a imaginé un mode de gestion. Gérer du logement pour des saisonniers, c'est pas quelque chose d'évident, parce que même si on a une saisonnalité qui s'étale entre mars et octobre, on va dire sur Bormes, hein, il faut quand même le reste de l'année pouvoir remplir. Donc il y a cette composante saisonnière qui est la plus forte, mais aussi on a une composante pour actifs. C'est comment on arrive à faire venir des actifs qui ont parfois besoin juste d'un logement tremplin pour s'installer à Bormes ou dans des communes à côté. Hein. On parlait de tourisme, on a le Lavandou à côté et la Lourme de l'autre. Et hier, à 10 minutes de voiture. Donc on est dans un espace sous pression, mais pour lequel il faut trouver aussi des solutions hors saison pour certains. Des actifs qui viennent s'y installer. Alors peut-être pour donc Action Logement a contribué à financer une partie de cette gestion. Il y a 11 logements qui sont en gestion là pour l'instant. On vise 25 parce que c'est par tranche. Et on a déclenché avec Action Logement ce qu'on appelle le visal saisonnier, qui est la garantie visale, qui garantit les impayés, qui garantit un peu de vacances, de la dégradation locative, mais qui est spécifique pour les saisonniers, qui ont des contrats de type saisonnier et qui couvrent des contrats qui sont entre 1 et 9 mois et qui couvrent les loyers à hauteur de maximum 800 euros et avec des taux d'effort de 50%. Enfin, c'est un peu technique, mais c'est assez adapté sur la question des saisonniers. Bon, nous, on n'est pas à 800 euros, on a réussi à sortir des loyers à peu près à 350 euros et c'est du loyer meublé. On est sur des logements meublés, forcément, parce que les saisonniers, ils sont pas là pour s'installer de manière pérenne. Donc ça aussi, c'est une gestion un peu particulière. On a beaucoup de rotations. Et ce qu'évoquait Vincent, c'est que les communes ne sont pas forcément les mieux armées pour gérer du parc locatif. Mais là, on a une intensité très forte. Et donc, on est là, nous, dans une autre de mes casquettes, qui est celle d'une agence immobilière à vocation sociale, pour gérer ce parc avec... Dernier petit détail, on n'est pas sur du logement social, on est sur le parc du domaine privé de la commune, ce qui permet d'avoir une certaine souplesse vis-à-vis des attributions de logement. Elles sont transparentes et elles sont gérées tant avec la commune qu'avec Action Logement. Et aussi sur des beaux meublés, ce qui n'est pas possible dans du logement social.
Donc il y a quelques vraiment spécificités. Et ce qui est intéressant peut-être avant qu'on regarde du coup quel a été le bénéfice pour la commune et en quoi ça répond à un certain nombre d'enjeux, c'est que quand on a comme ça des innovations, il y a une possibilité de la dupliquer, d'en faire quelque chose justement dans d'autres endroits.
Bah, c'est exactement ça. Il y a, comme je l'évoquais en introduction, on a pas mal de communes dans le Var, mais ailleurs, évidemment, qui ont du parc parfois en legs, parfois qu'elles ont mobilisé, qu'elles ont racheté, tout en sachant ne pas quoi faire avec. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être utilisées sur du parc communal. C'est des choses aussi qui peuvent se faire avec un bailleur privé. Un bailleur privé, si on lui garantit son retour sur opération avec des subventions sur la réhabilitation, ce qu'on n'a pas pu mobiliser dans le cadre de... Si, on a mobilisé des subventions, pardon, le fonds. Enfin, je pense que tu en diras plus là-dessus. On peut aussi mobiliser du parc privé. Donc, mais notre objectif, c'était plutôt le parc communal et d'interpeller toutes les communes qui sont en zone montagne ou en zone littorale pour pouvoir leur dire, avec quelque chose d'assez souple et qui valorise votre patrimoine sans forcément aller dans la construction, on peut faire des choses.
C'était ça aussi l'intérêt d'en parler. Alors juste peut-être pour conclure doucement, parce que le temps passe assez vite, mais faire une sorte de synthèse, un peu un résumé de comment et en quoi ça a répondu aux attentes et quels seront après tout les atouts et les bénéfices de cette solution que vous avez mise en place.
Alors pour l'instant, c'est feu vert sur tous les voyants. Comme le disait très bien Marc Esponda, on a aujourd'hui 11 logements qui sont exploités et 11 qui sont en construction puisque la dernière phase va commencer au mois d'avril. Sur ces 11 logements, aujourd'hui, au mois de novembre, on en a 6 qui sont occupés. Donc évidemment, on n'est pas en pleine saison, c'était une des interrogations. On en a 6 qui sont occupés, évidemment, entre avril et octobre. On a 100% d'occupation, on refuse du monde. C'est très positif. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a fait le choix de mettre en place des loyers qui sont globalement 30% inférieurs au prix moyen du loyer pour des logements meublés sur la région, ouais. Ce qui était un vrai choix politique de rester tout à fait abordable et disons, on savait à qui on s'adressait. Donc aujourd'hui, le bilan est vraiment super positif à ce niveau-là. On a aussi pu bénéficier, il faut le dire, grâce à Action Logement, d'un fonds d'accompagnement. Donc là, c'est, on va dire, le partenariat entre la commune et Solia qui a permis d'avoir ça, qui permet aussi, nous, à la commune, de confier à Solia, à travers l'AIVS, ce mandat de gestion qui a un volet d'accompagnement. C'était quelque chose qu'on voulait absolument avoir aussi sur la commune. Cette population de saisonniers doit être accompagnée. Notre objectif est que ce logement reste du logement pour saisonniers, qu'on n'ait pas des gens qui s'installent définitivement. Mais pour ça, il faut être capable, le moment venu, d'accompagner cette population pour la faire muter sur d'autres types de logements si c'était nécessaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait très bien avec l'AIVS. Et encore une fois, Action Logement nous a aidés sur ce volet-là.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. C'était aussi ça qu'on voulait voir ensemble, ces initiatives, ces différences, cette autre manière de regarder, de repenser la ville avec des choses duplicables. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Bormes-les-Mimosas. Je vous rappelle que ce podcast sera diffusé sur Radio Immo et Radio Territoria. Je vous souhaite une belle fin de journée sur le salon. Merci, au revoir.
Merci Frédéric.
Merci beaucoup.
En action pour le logement abordable et durable. À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2025, Action Logement donne la parole aux élus locaux.